Au téléphone sonne ce soir le Qatar. Pourquoi ce petit État est-il devenu le mouton noir du Golfe ? Pourquoi ses principaux voisins ont-ils rompu leurs relations diplomatiques et économiques avec lui le mois dernier ? Comment le Qatar fait-il face à l'embargo depuis et comment a-t-il décidé de réagir ? On va tenter de répondre à ces questions ce soir et on va se demander si les accusations proférées à l'encontre de Doha quant à un éventuel soutien au terrorisme sont justifiées ou non. Et au-delà, quels sont les équilibres géopolitiques qui se jouent à travers cette crise ? Enfin, on parlera aussi des relations entre la France et le Qatar, un État qui a bien des intérêts ici, chez nous, dans l'immobilier, mais aussi dans le sport. On pense évidemment au PSG ou dans l'audiovisuel via beIN Sport. Pour parler de tout cela, avec nous ce soir, notre confrère Christian Chéneau qui rentre tout juste du Qatar. Bonsoir Christian.
Bonsoir Claire.
Rappelle que vous êtes co-auteur avec Georges Malbruno de Nos très chers émirs, publié chez Michel Lafon. Il y a d'ailleurs une nouvelle édition qui vient tout juste de sortir. Avec nous également notre consoeur Clarence Rodriguez. Bonsoir Clarence.
Bonsoir Claire.
Ancienne correspondante à Riyad. Clarence Rodriguez, auteur de Révolution sous le voile, ça c'est chez First Edition. Et avec nous également François Toisy, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien conseiller Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d'Orsay, fondateur du cercle de réflexion Cap Mena, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et vous avez publié, vous, Le ciel et leurs limites, c'est aux éditions du moment. Pour interpeller nos invités sur ce qui se passe dans le Golfe ou sur l'influence du Qatar ici en France, franceinter.fr ou Twitter avec le mot dièse Telson, vous pouvez aussi nous appeler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction le standard de France Inter, justement. Carole nous appelle de Lille. Bonsoir, Carole.
Bonsoir.
Vous aviez une question à nous poser.
Oui, je voudrais savoir pourquoi un si minuscule pays peut enflammer la région. Et deuxième question, qui a décidé que les Qataris seraient affamés prochainement avec le blocus ?
Merci beaucoup Carole pour cette excellente question qui va nous permettre effectivement d'introduire le sujet. Il y a deux questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'un aussi petit pays fait à ce point la une de l'actualité internationale ? Qui veut répondre ? François Toisy, oui. Peut-être pour commencer.
Alors le Qatar reste quand même de très loin l'émirat le plus médiatique dans le Golfe, qui attire le plus d'attention et le plus de fantasmes. Donc d'abord, c'est un pays extrêmement riche. Il détient quand même 12% des réserves mondiales de gaz. Il est le premier producteur et exportateur mondial de GNL, 25% de la production mondiale.
Gaz liquéfié.
Bien sûr. Et il a une très petite population. Il y a 2 millions d'habitants au Qatar, dont on dirait 300 000 locaux. Et c'est vrai que le Qatar, il suscite beaucoup de fantasmes parce que le Qatar s'est clairement positionné sur la scène internationale. Il y a eu une détermination de l'émir père, Cheikh Hamad, à ce que le Qatar soit sur les écrans. Et donc, depuis maintenant une vingtaine d'années, le Qatar s'active pour être véritablement au centre des enjeux diplomatiques.
Clarence Rodriguez.
Oui, puis en fait aussi le Qatar a beaucoup fait parler de lui, et notamment avec la Coupe du Monde 2022. Donc c'est effectivement un tout petit émirat, mais dont on parle beaucoup. Et puis je pense qu'on aura l'occasion également de parler de cette influence par rapport aux frères musulmans, etc.
Mais c'est vrai que la question de Carole était bonne, Christian Chéneau, parce que ça paraît disproportionné. Quand on voit la taille de l'Arabie Saoudite à côté du Qatar, on se pose la question.
Oui, le Qatar, c'est un peu plus grand que la Corse, à peu près. Donc, on a dit 200 000 habitants locaux, 2 millions d'habitants étrangers. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, le Qatar ne va pas encore mourir de faim. C'est-à-dire qu'il y a un embargo, il y a un blocus, mais qui n'est pas complet. C'est-à-dire que l'Arabie a fermé sa frontière terrestre, la seule du Qatar, avec le reste du monde. Les espaces aériens de Bahreïn, d'Arabie et des Émirats sont interdits aux avions qatariens, mais le port fonctionne, les avions fonctionnent. Moi, j'étais à Doha avant-hier. Évidemment, l'aéroport fonctionne à plein régime. Et là, justement, le Qatar a mis en place des stratégies de contournement de cet embargo via l'Iran, la Turquie, Oman. Et donc, les supermarchés sont bien approvisionnés. J'ai visité une usine où on va amener 4000 vaches pour produire du lait. Donc là, encore une fois, le Qatar a de l'argent, a de la ressource. Il a un fonds souverain de plus de 400 milliards de dollars. Mais évidemment, la crise diplomatique met le maximum de pression sur ce petit pays.
Est-ce qu'on peut rappeler les exigences des pays, justement, qui ont décidé cet embargo à l'encontre du Qatar ?
Il y a 13 exigences qui sont un peu aussi, exagérées. Alors, ils veulent fermer Al Jazeera, il faut réduire la présence iranienne, enlever la bastion. Turc, chasser quelques opposants, rompre les liens avec le Hamas. Enfin, il y a toute une série de mesures que le Qatar a refusées. parce qu'il dit c'est un procès
voilà,
politique.
Il y avait un ultimatum qui devait expirer normalement il y a trois jours, il y a eu 48 heures de rab, et hier finalement le Qatar a dit pas question, et voilà, fin de non-recevoir.
Oui, en plus il faudrait ajouter que le Qatar irrite beaucoup ses voisins par rapport à, je dirais, à sa diplomatie. Le Qatar est très a une diplomatie très très individualiste. Il refuse quand même de se plier aujourd'hui à la diplomatie des pays du Golfe. Ça fait un moment que le Qatar joue solo, et le Qatar irrite beaucoup ses voisins parce que d'un côté il a soutenu les frères musulmans pendant les révolutions arabes. Alors on dit beaucoup, on accuse beaucoup le Qatar d'avoir soutenu les frères musulmans, mais il faut quand même reconnaître que le Qatar les a plus soutenus par opportunisme que par idéologie. Les Qataris étaient convaincus que c'était la force d'avenir et qu'il fallait les soutenir, et ils ont fait ce pari-là. Il faut dire aussi qu'ils n'étaient pas seuls à ce moment-là. Même nous, à un moment, nous étions en train de dialoguer avec un certain nombre de ces mouvements.
On va revenir sur ces accusations par rapport au terrorisme et au fondamentalisme, mais tout de même encore une question par rapport à cette crise à laquelle on assiste aujourd'hui. D'où ça vient? C'est de l'histoire ancienne? C'est une rivalité historique? C'est quoi?
Il y a une rivalité qui est ancienne entre notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar. Déjà au moment du coup d'État du père, par rapport lorsque le Cheikh Ahmed a pris le pouvoir, il a renversé son père. Les Saoudiens étaient très irrités. Ils n'ont pas du tout accepté ce coup d'État. Et puis il y a des relations très tendues avec l'El Thani qui sont maintenant anciennes.
C'est vrai que l'Arabie Saoudite ne supporte pas donc l'exubérance petit peu des Qataris. Ce côté aussi soft power que déploient donc les Qataris donc à travers le monde. Il y a une espèce un peu de jalousie, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de l'Arabie Saoudite, mais faut pas oublier aussi de parler des Émirats Arabes Unis aussi, parce que c'est ça, c'est aussi
il y a toute une coalition
absolument
contre le Qatar.
Ouais. Il faudrait dire aussi que les Qataris on irrite beaucoup leurs voisins parce qu'ils leur rappellent aussi ce qu'étaient les Koweïtiens à l'époque. Les Koweïtiens étaient aussi comme ça, très arrogants. Quand d'un coup ils sont devenus très riches, les Koweïtiens ont été très exubérants. Et donc les Qataris, ce sont les derniers qui ont découvert toute cette fortune dans le Golfe, et donc ils sont très vite tombés dans cette exubérance, dans cette stratégie d'opportunisme individualiste, et ils ont très vite irrité leurs voisins. Donc, et c'est vrai que s'il y a un certain mépris de la part des grands pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et des Émirats, vis-à-vis du petit Qatar, qu'ils considèrent comme un nain.
Vous êtes d'accord avec ça, Christian Chenot ?
Oui, il y a le bling-bling qatarien qui, effectivement, il y a 15 ans, qui parlait du Qatar ? Le Qatar, c'est 15 ans de...
C'est une réussite récente.
Oui, ça a commencé en 95, mais c'est les années 2000. On peut parler d'un miracle qatarien, parce qu'effectivement, on regarde Doha, et maintenant, il y a un développement, il y a des tours, ils ont la Coupe du Monde.
Ça ressemble à quoi, la ville de Doha ? J'allais vous demander.
Il y a une ville traditionnelle, il y a une baie, et puis surtout, ils ont construit maintenant une espèce de Manhattan sur le Golfe, avec des dizaines de gratte-ciel, avec un centre financier, mais tout autour, c'est rien, c'est que du désert. Donc, c'est une ville-État qui se projette maintenant dans le monde, c'est un laboratoire, un peu peut-être comme Hong Kong ou Singapour, et c'est vrai que ce petit pays, encore une fois, de 200 000 habitants, encore une fois, c'est une rue de Téhéran ou une rue de Riyad, le Qatar, qui se projetait et qui, à un moment, a fait la pluie et le beau temps, notamment pendant les révolutions arabes, qui était quasiment le chef de la Ligue arabe, pour les grosses puissances et pour les grands pays, c'était un petit peu, ça allait trop loin, quoi.
Clarence. Alors, ils agacent aussi, parce qu'il faut savoir que pour les Saoudiens, c'est une obsession. Vous savez, l'Iran, parce que c'est ça, c'est que le Qatar, les Qataris sont quand même rapprochés donc de...
C'est ça qui énerve l'Arabie Saoudite.
Ah ben complètement, oui. C'est une obsession, je veux dire, de tout instant. Et puis, il faut savoir aussi que le Qatar partage aussi avec l'Iran ce gisement gazier, donc dans le golfe arabo-persique. Donc voilà, c'est aussi une des raisons qui fait que le Qatar irrite donc le voisin donc saoudien.
Alors si je comprends bien, ça fait un moment qu'il y a ces rivalités. Pourquoi est-ce que les choses éclatent aujourd'hui, Christian Chenot? J'ai lu votre livre là qui vient de ressortir. Vous dites que c'est en partie Donald Trump qui a mis le feu aux poutres. C'est votre thèse en tout cas.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un sommet là au mois de mai où Donald Trump va à Riyad. Il convoque finalement les pays du Golfe. Golfe, les pays arabes, et le message est clair, c'est l'ennemi numéro un, c'est l'Iran, et le terrorisme est la priorité de la politique américaine dans la région, et donc les pays, l'Arabie et les Émirats se sont dit, bah tiens, finalement, on a un peu un feu vert, implicite ou pas, pour finalement passer à l'action, parce que le Qatar était un peu montré du doigt en disant il ne veut pas participer à cette campagne, etc., etc. Donc là, c'était un peu le prétexte qui a mis le feu aux poudres. Encore une fois, les pays du Golfe se sont tendus des ailes pour passer à l'action.
Vous êtes d'accord, François?
Oui, bien sûr. D'autant plus que l'Arabie Saoudite a réussi à nouer une alliance stratégique avec Donald Trump. Hein, on l'a vu lors de sa visite. Une alliance qui a été très habilement, travaillée par l'homme fort de Riyad aujourd'hui, le jeune prince Mohamed Ben Salman, qui est maintenant prince héritier. Et ce jeune prince a réussi à faire en sorte que Donald Trump s'aligne complètement sur l'agenda diplomatique saoudien, à savoir l'isolement de l'Iran et la lutte contre le terrorisme. Et bien sûr, en contrepartie, il faut quand même le dire, en échange de plus de 380 milliards de dollars de contrats au bénéfice des entreprises américaines. Donc, Donald Trump s'est complètement allié aux priorités saoudiennes. Et donc, les Saoudiens, tout comme les Iméniens, se sont sentis aujourd'hui en position de faire un passage en force sur le dossier qatari.
Alors, je sais que vous avez tous envie d'intervenir, mais on va peut-être quand même, Clarence, une seconde, repartir au standard de France Inter, parce que ça s'appelle le téléphone sonne, cette émission. Antoine est au bout du fil, il nous appelle de Paris. Bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Voilà, en fait, j'avais une question justement par rapport à la position de l'Arabie Saoudite quand on parle de lutte contre le terrorisme. J'ai souvenir d'un discours à l'ONU de l'Arabie Saoudite, il y a 2 ans, je crois, qui s'en prenait très fortement au terrorisme, en tout cas. Et à la fin du discours, en fait, on comprenait que le terrorisme, pour eux, c'était uniquement le Hezbollah, l'Iran, et finalement pas du tout Daesh. Donc j'ai l'impression que quand on ne traduit pas en fait le discours de l'Arabie Saoudite quand ils prétendent lutter contre le terrorisme en s'en prenant au Qatar, mais au contraire, finalement, ils confortent leur position.
Pour vous, il y a un peu de poids et de mesure, c'est ça?
Oui, et puis on n'explique pas du tout en fait les relations en disant ça. Parce que c'est pas du tout un renoncement de l'Arabie Saoudite à soutenir le djihadisme.
Alors écoutez, on va répondre à tout ça parce qu'on a vraiment des spécialistes autour de cette table. L'Arabie Saoudite accuse le Qatar de soutenir le terrorisme.
Oui.
Vrai ou faux?
Alors, je veux juste dire, c'est d'actualité, c'est sorti aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un rapport britannique qui pointe du doigt donc l'Arabie Saoudite comme le principal pourvoyeur du terrorisme dans le monde. Ça sort, c'est sorti donc hier, donc c'est vraiment donc on a envie et l'auditeur a un petit peu raison, c'est-à-dire que on a l'impression que effectivement l'Arabie Saoudite pointe le doigt sur le Qatar, les accusant donc de fomenter des actes de terrorisme, etc. Mais effectivement aussi, côté Arabie Saoudite...
Là, devant sa porte d'abord.
Bah, c'est un peu ça. J'ai l'impression que si vous voulez que ce soit les uns ou les autres, je veux dire, ils se jettent l'anathème les uns et les autres, mais il n'y en a pas un qui lave plus blanc que l'autre, quoi, en fait.
Alors, Christian Chesneau, vous êtes allé enquêter, effectivement, sur ces liens, sur ces financements du terrorisme. Vous avez même rencontré des financiers du terrorisme
financier.
Au Qatar, enfin un, oui.
Cher Noémie.
En tout cas, c'est pas un mythe, ça existe.
C'est-à-dire que le Qatar n'est pas un État terroriste qui financerait, c'est pas l'émir qui dirait on va financer des groupes terroristes. Mais c'est vrai qu'il y a ce que j'appelle des angles morts, hein, des zones un peu d'ombre, où effectivement, dans ce contexte des révolutions arabes, le Qatar a des accointances, a financé, a armé des groupes en Libye, en Syrie, qui n'était pas très recommandable, même au Mali, il y a eu... Donc il y a une zone d'ombre, peut-être par opportunisme, peut-être pour jouer un rôle, peut-être pour exporter la religion, le wahhabisme. En tout cas, il y a des zones d'ombre. Au Qatar, il y a à peu près une dizaine de ce qu'on appelle financiers du djihad, d'Al-Qaïda, etc. Alors qu'ils sont sous résidence surveillée, hein, qui sont demandés, blacklistés aux États-Unis, en Europe, mais évidemment qu'on peut rencontrer. Moi, j'ai appelé le fameux cher Noémie, il m'a donné rendez-vous, on a bu un café, il n'était pas en prison. Hein. Alors, il ne pouvait pas sortir du pays, ses comptes étaient gelés, mais ce qu'auraient voulu peut-être les Américains ou les Occidentaux, c'est que cette personne soit pas en ville, mais soit en prison. Et c'est vrai que parfois, il y a un peu de laxisme des autorités qatariennes qui ne veulent pas aller trop loin, parce que encore une fois, le Qatar, c'est un village et c'est des grandes tribus. Mmh. Et donc, si vous mettez en prison un personnage comme le cher Noémi, bah, vous attaquez au clan, à la tribu, donc il peut y avoir des troubles. Donc, il y a eu quand même des zones d'ombre, même si le Qatar lutte contre le blanchissement, pour le terrorisme, etc. Il contrôle les mouvements. Le problème aussi dans ces pays-là, que ce soit l'Arabie ou le Qatar, c'est qu'il y a beaucoup de liquide qui circule. C'est des valises d'argent. Et donc, vous mettez $1 million, $2 millions dans une valise, et ça, ça va à des groupes, et ça, c'est difficilement contrôlable.
François Toisy.
Par rapport au soutien de l'Arabie Saoudite au terrorisme, je suis quand même beaucoup plus réservé, dans la mesure où l'Arabie Saoudite a quand même été, il faut quand même la reconnaître, a été quand même très fortement touchée par le terrorisme. Il y a eu quand même une période très sombre, où l'Arabie Saoudite a dû faire face à du terrorisme et notamment il faut quand même lui reconnaître que l'ancien prince héritier Mohamed Ben Nayef a été d'ailleurs reconnu pour l'excellent travail qu'il a fait dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme et qui lui a valu une reconnaissance même internationale parce qu'il s'est fortement battu contre Al-Qaïda qui voulait déstabiliser l'Arabie Saoudite parce que Daesh est une menace interne pour l'Arabie Saoudite, c'est pas simplement une menace externe pour l'Arabie Saoudite et la lutte contre le terrorisme est une priorité pour l'Arabie Saoudite. Il faut reconnaître que, il faut le dire, que beaucoup de leaders djihadistes ont pour priorité aujourd'hui la déstabilisation de l'Arabie Saoudite. Donc, après qu'il y ait des soutiens de fondations,
parce que justement, j'allais vous demander,
ou de familles qui ont soutenu des mouvements, djihadistes, c'est sûrement vrai, mais l'État saoudien en tant que tel soutenir des mouvements terroristes, je n'y crois pas.
Pour en revenir une seconde au Qatar, hein, puisque oui. C'est le Qatar qui est sur le banc des accusés aujourd'hui. Qui soutient précisément le Qatar? Alors, il y a tout ce dont vous avez parlé, Christian Chesneau, mais sinon, il y a quoi? Les frères musulmans, l'ancien Front Al-Nostra, le Hamas, il y a quand même des groupes qui sont soutenus officiellement, et c'est ça qui énerve le voisin.
C'est officiel, le Hamas.
C'est ça qui énerve l'Arabie Saoudite.
Oui, et puis même Israël, c'est-à-dire que le Hamas avait pignon sur rue, a toujours pignon sur rue à Doha, donc ça, il y a une alliance très forte. L'ADN de le Qatar, c'est les frères musulmans. Mais en même temps, ça va plus loin, comme je disais, au Mali, en Libye, en Syrie, dans le contexte de ces révolutions arabes, on a beaucoup arrosé, en tout cas le Qatar, on sait que le Qatar a acheté pour 20 000 tonnes d'armes en Libye, qui ont été distribuées à des groupes qui sont pas recommandables et qui posent problème. Donc là évidemment, ces zones d'ombre, là, il y a à dire. Même chose en Syrie, le Front al-Nusra, qui était même la filiale d'Al-Qaïda en Syrie, le Qatar a abondamment aidé. D'ailleurs, Mohamed El-Jouani, le patron d'El-Nusra, était régulièrement invité sur la télévision Al Jazeera. Donc voilà, il y a des liens, mais ce qui ne veut pas dire que le Qatar est un État terroriste, mais la géopolitique, des agendas, etc., font qu'il y a parfois des relations, peu recommandables.
On va prendre Alexandre qui nous appelle de Paris. Alexandre, est-ce qu'on a un peu répondu à votre question? Parce que je vois que vous vouliez justement nous poser une question à propos du Qatar et du terrorisme. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu là?
Entièrement satisfait.
Ah bah écoutez, messieurs.
Merci.
Mesdames.
C'est compliqué parce que.
C'est parfait.
C'est compliqué parce qu'effectivement, c'est pas blanc ou noir. Et là, on est dans le gris. Encore une fois, il y a des zones d'ombre, il y a des agendas. Voilà.
C'est pas aussi net, en fait.
Ouais. François Toisy.
Également par rapport à la stratégie du Qatar, vous savez qu'on accuse régulièrement le Qatar de soutenir les frères musulmans et d'autres mouvances. Il faut quand même le dire que le Qatar l'a souvent fait sur instruction de Washington. Lorsque le Qatar ouvre le bureau des talibans à Doha, il l'a sûrement fait sur instruction des Américains. Lorsque le Qatar dialogue avec un certain nombre de mouvements, c'est sûrement parce que les États-Unis ont envie d'avoir un lieu où se rencontrent un certain nombre de belligérants pour trouver des solutions de sortie de crise. Lorsque le Qatar s'implique à essayer de trouver des solutions, que ce soit au Darfour ou que ce soit au Liban ou que ce soit dans les rivalités interpalestiniennes, c'est souvent parce qu'on est en relation étroite avec Washington. Donc le Qatar a beaucoup servi aussi les intérêts américains dans la région, notamment durant l'administration Obama. Alors, c'est vrai qu'il y a un changement aujourd'hui avec l'administration Trump. Et puis, il faut quand même le dire que la stratégie du Qatar vis-à-vis des frères musulmans a été un échec, puisque le Qatar a subi beaucoup de revers. Il a dépensé beaucoup d'argent à soutenir ces mouvements. L'Égypte, ça a été un revers considérable pour le Qatar. Aujourd'hui, il se retrouve avec le général Sisi, qui est obsédé par le Qatar et qui a même vraiment envie, qui est vraiment sur cette ligne très, très, très dure avec le Qatar. En Libye, ça ne se passe pas comme il le souhaitait, même en Tunisie. Donc, cette stratégie de soutien aux frères musulmans n'a pas été payante pour les Qataris.
Une petite question sur la chaîne Al Jazeera, parce que parmi les revendications de l'Arabie Saoudite et de ses alliés, il y a la fermeture de la chaîne. Christian Chenu, alors on a entendu sur cette antenne aujourd'hui des gens que vous êtes allés interviewer là-bas qui disent c'est comme si on demandait à la Grande-Bretagne de fermer la BBC, mais très sincèrement, est-ce qu'on peut accuser Al Jazeera d'être un organe de propagande et éventuellement de relayer des paroles un peu extrémistes?
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs périodes d'Al Jazeera. Il y a, j'allais dire, avant la révolution arabe, donc 2011, c'est vrai qu'Al Jazeera, c'est une révolution médiatique dans le monde arabe, parce qu'avant, il y avait des médias qui étaient aux ordres, etc. Donc là, pour la première fois, on entend des opposants, etc. C'est vrai que à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu pas mal d'interviews avec Ben Laden qui faisait passer des messages. Donc il y a eu des soupçons. On se dit, c'est quoi cette chaîne? Donc les Américains, vous vous souvenez, voulaient même bombarder Al Jazeera. Mais Al Jazeera a eu quand même une grande crédibilité parce qu'effectivement, ils allaient partout, ils avaient beaucoup de moyens. Et donc c'est vrai que l'opinion publique arabe s'est réveillée grâce à Al Jazeera, ça on peut le dire. Mais c'est vrai qu'avec les révolutions arabes, Al Jazeera, j'allais dire, a collé à l'agenda diplomatique du Qatar. Donc c'est vrai que il y a eu moins de recul, peut-être moins d'exigences professionnelles, et que parfois, moi je regarde souvent Al Jazeera, on a eu l'impression qu'Al Jazeera était finalement le porte-parole des rebelles, le porte-parole des révolutionnaires, et que ils étaient là pour, j'allais dire, mettre un peu de d'huile sur le feu. Donc c'est vrai que là ils ont perdu un peu de crédibilité, mais ça reste quand même une chaîne de référence.
Oui, qui est quand même qui a pignon sur rue.
Exactement, voilà. Donc c'est une chaîne crédible, internationale, qui a une version en anglais, voilà. Donc demander sa fermeture, c'est complètement irréaliste, et c'est vrai qu'à Al Jazeera à Doha, les gens que j'ai rencontrés, ils tombent des nues parce qu'ils se disent mais attendez, c'est pas en plus c'est quand même des gens qui ont pas une conception de la liberté de la presse très très développée, que ce soit aux Émirats ou en Arabie, la presse est quand même sous pression. Donc,
Al Jazeera en a profité, d'après ce que j'ai vu là, pour bien insister sur les violations des droits humains en Arabie Saoudite, notamment. François Toisy.
Oui, d'autant plus que c'est pas la première fois, puisque l'Arabie Saoudite avait depuis déjà plusieurs années exigé des sanctions contre Al Jazeera. Al Jazeera aujourd'hui, bien sûr, surfe sur sa popularité, même si elle fait face aujourd'hui à des chaînes concurrentes, parce que les Saoudiens comme Émiratis ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont aussi lancé des chaînes qui aujourd'hui ont beaucoup de succès dans le monde arabe. Je pense notamment à l'Arabia, qui est aujourd'hui un peu la grande concurrente d'Al Jazeera. Mais Al Jazeera irrite surtout par le fait qu'elle accueille des opposants. À l'accueil aujourd'hui des responsables religieux. Je pense notamment au Cheikh Kardawi, qui vient régulièrement sur les ondes, sur les plateaux de Jazeera et s'en prend violemment à l'Égypte. Donc c'est vraiment cette chaîne aussi de propagande. Et les Qataris, bien sûr, ça fait clairement partie de ce soft power que les Qataris auxquels les Qataris tiennent particulièrement.
Une question, Clarence, qui nous arrive par mail, c'est Arthur qui nous demande: est-ce que les Saoudiens ne sont pas en train de planifier une révolution de palais à Doha afin de remplacer l'émir Tamim?
Les Saoudiens, voilà. Les Saoudiens, pardon, je crois. Ouais. Les Saoudiens.
Non, les Saoudiens.
Les Saoudiens. Il peut y avoir, oui, effectivement, je veux dire qu'ils essaient de fomenter avec l'aide notamment du prince héritier donc d'Abu Dhabi, parce que tout ça, ça ne se fait pas seul, vous voyez. Il y a juste... Je voudrais juste vous poser, il y a une question, c'est par rapport à ce blocus, par rapport aux Saoudiens. La question est de savoir quand même, est-ce que tout cela n'a pas été fait à la hâte, justement? Est-ce que ça a été vraiment prémédité? Parce que on vient de parler d'Al Jazeera, fermeture d'Al Jazeera, on parlait des 13 exigences et demandes, etc., qui sont irrecevables, qui sont impossibles, en tous les cas, à réaliser. Et puis on l'a vu hier, justement, le Qatar qui n'abdique pas, parce que c'est quand même c'est insensé. Et on se demande si, finalement, justement, l'Arabie Saoudite, c'est pas un petit échec pour l'instant, parce que n'oublions pas encore une fois, la cible, quelle est-elle? C'est l'Iran. Mais là, on a voulu peut-être isoler le Qatar, mais le Qatar n'est pas si isolé que cela. Je veux dire que les amis des Qataris, c'est qui? Ce sont qui? Les Turcs et puis les Iraniens. Donc finalement, on se dit, est-ce que
ils ne se sont pas trompés pour l'instant?
C'est contre-productif pour l'instant.
Je pense que c'est contre-productif En ce moment, le premier mois, on vient de passer un mois d'embargo. Mmh. Là, la crise atteint une espèce de statu quo, hein, d'impasse. Et donc, on va voir comment ça va se développer. Mais c'est vrai que ce soit les Saoudiens ou les Émiriens ont envie, j'allais dire, de tordre le cou du Qatar. Donc, ils vont revenir à la charge. Est-ce qu'ils ont des velléités, effectivement, de susciter un coup d'État, de manipuler des membres de la famille royale au Qatar, etc. On le verra par la suite. Mmh. En tout cas, moi, ce que je sais, j'ai eu des gens aujourd'hui d'Abu Dhabi, ils sont dans la longueur, c'est une crise qui va durer, ils sont pas là pour un mois, ça va durer pendant peut-être des années.
Ah, j'aimerais qu'on parle tout à l'heure des relations entre le Qatar et la France. Alors peut-être une question, hein, François Toisy, si vous le permettez. L'éditorial du journal Le Monde, là, ce soir, est titré de la façon suivante, « Dangereuse escalade ». Est-ce que vous croyez, vous, que les choses peuvent s'envenimer à partir de la situation actuelle ?
S'envenimer, non, parce que je pense qu'on a depuis deux jours une légère désescalade. J'ai l'impression que les Américains sont en train de siffler la fin de la récréation. Trump, qui pendant longtemps, qui dès le départ avait quand même soutenu la démarche saoudienne, émiratie et égyptienne, on a cette impression que l'administration américaine aujourd'hui a quand même pris le dessus, que ce soit Mattis et Tillerson, le Pentagone et le Département d'État, qui étaient sur une ligne beaucoup plus réservée, ont quand même aujourd'hui fait passer les bons messages, et on sent que l'administration américaine est en train d'amener les belligérants à trouver une solution honorable. Maintenant, c'est faire en sorte que tout le monde sorte par la grande porte de cette crise. D'autant plus qu'il faut quand même reconnaître...
Une crise dans une région quand même sensible. Hein.
Bah, d'autant plus que c'est une crise qui met en péril quand même le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, qui est quand même la seule enceinte aujourd'hui crédible dans la région, et qui porte un coup à la famille sunnite en créant une nouvelle rupture entre notamment maintenant avec cette alliance turco-qatari, à un moment où le monde sunnite a quand même besoin d'unité, notamment face aux grandes crises qui s'annoncent.
Un petit mot, Clarence, oui, et ensuite on va au standard.
François Toisy a tout à fait raison, c'est que je pense qu'effectivement, pour pas que le GCC, donc le Conseil de coopération des pays du Golfe, vol en éclats, eh bien, il va falloir que tout le monde revienne un petit peu, je veux dire, dans le rang, rentre dans le rang. Parce que, si vous voulez, au départ, en mai 81, lorsque le GCC a été créé, c'était justement pour contrer l'Iran, mais à des vues, si vous voulez, de stabiliser la région. Donc là, aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe. Bien sûr. Il va falloir quand même calmer le jeu. Moi, je ne pense pas justement que ça puisse prendre des proportions importantes.
On repart au standard de France Inter. Nathalie est en ligne d'Ajetmo. Bonsoir, Nathalie.
Oui, bonsoir. J'avais simplement une réaction suite à ce que un de vos intervenants a dit tout à l'heure, à savoir que le Qatar, au moment des printemps arabes, avait fourni pour je ne sais combien de millions d'armes.
20 000 tonnes d'armes en Libye.
Voilà, pardon, des tonnes d'armes aux frères musulmans. Et ma question était toute simple, qui leur a fourni les armes ? Puisqu'on sait que la France est quand même un pays qui vend beaucoup d'armes. Donc voilà, est-ce que nous, on n'a pas quelque chose à voir là-dedans ?
François Toisy.
Bah, sur le Qatar, c'était clair. Au moment de la crise libyenne, il y avait un axe très fort entre Paris et Doha, qui était quand même... il faut quand même le dire, le Qatar a été l'allié privilégié de la présidence Sarkozy, où il y a eu quand même une relation particulièrement forte. Hein. Les Qataris ont même œuvré à la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien. Il y a une vraie complicité entre nous et les Qataris nous ont, il faut quand même le reconnaître, ils ont soutenu la France dans cette aventure libyenne.
Ça nous amène aux relations entre la France et le Qatar. Christian Chesneau, vous avez bien expliqué dans votre livre La diplomatie du carnet de chèques, etc. Il y a des relations importantes entre la France et le Qatar. Et aujourd'hui, la France, par rapport à cette crise, elle est bien embêtée.
Elle est embarrassée. Et justement, Emmanuel Macron, il prend un peu de distance, j'allais dire. On a eu un Nicolas Sarkozy avec une lune de miel avec le Qatar. François Hollande, qui était très proche de l'Arabie Saoudite. Et là, on a un Emmanuel Macron peut-être plus pragmatique. Oui.
Macron, il plaide la désescalade, j'ai noté. Voilà. Mais en même temps, il souligne la nécessité de lutter contre le terrorisme.
Oui,
en même temps, objectivement, la France est embarrassée parce qu'on est amis avec tout le monde. On est amis avec le Qatar, on a vendu 24 Rafales.
En même temps.
On a un accord de défense. On est amis avec les Émirats parce qu'on a une base militaire avec aussi un accord de défense. Et puis on a fait de l'Arabie notre partenaire stratégique dans la région. Donc, on peut pas se permettre de choisir. Les Américains pourraient choisir à la limite. Mais nous, on est obligé finalement d'être sur une ligne un peu compliquée. Peu de marge de manœuvre. Mais en même temps, Emmanuel Macron, effectivement, fait passer des messages. Il a reçu un peu tout le monde. Encore une fois, L'idée, c'est de faire une désescalade, de faire passer des messages, mais la France est embarrassée parce que les Émiriens ont beaucoup d'investissements en France, les Qatariens ont beaucoup d'investissements en France. Voilà, donc on peut pas se permettre de couper un bras d'un protagoniste.
Alors, à propos des investissements en France, on entend beaucoup la France, enfin le Qatar rachète tout dans ce pays, le PSG, etc. C'est vrai ou c'est faux ça? Qui veut répondre, François
Loisy? Le Qatar, c'est qui est très
intérêts.
Il est très actif en France. Hein, il est actionnaire d'un grand nombre d'entreprises françaises, hein, que ce soit actionnaire minoritaire, hein, il a 5 à 7% dans un certain nombre d'entreprises, que ce soit Veolia, que ce soit Lagardère, que ce soit Vinci. Le Qatar est un grand investisseur dans l'immobilier parisien et le Qatar, bien sûr, achète beaucoup d'équipements militaires à la France. Mais les Émiratis font la même chose. Hein. Les Émiratis, on a quand même une relation très forte. Les Émirats sont notre quatrième excédent commercial et sont notre principal partenaire commercial dans le Golfe, hein, de très loin. Donc c'est important de dire que la France a une relation très forte avec, notamment avec Abu Dhabi au niveau militaire. Avec l'Arabie Saoudite, bien sûr, il y a eu cette, comme l'a très bien souligné Christian, c'est ce nouveau partenariat stratégique qu'a mis en place François Hollande, où là, bien sûr, les Saoudiens se sont engagés à investir massivement en France, en contrepartie d'un alignement diplomatique français, notamment sur le nucléaire iranien et en Syrie. Les Français sont encore dans l'attente de ces grands contrats. Voilà.
Sur le fait que le Qatar, évidemment, même si les Émirats arabes unis ont peut-être plus d'intérêt ici, le fait qu'il y ait un club de foot comme le Paris Saint-Germain, c'est sûr que c'est quelque chose qui frappe les esprits, surtout quand c'est le club champion.
Oui, et puis je crois que ce qui frappe aussi, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, le Qatar, c'est 15 ans d'investissement. C'est vrai que les Qatars sont arrivés en France, j'allais dire, comme un ovni, et donc les gens ne les connaissaient pas. C'est vrai aussi, leur problème, ils ne communiquent pas. Pourtant, l'émir Tamim parle français. Il n'y a jamais eu une interview en français de l'émir Tamim ou de la famille royale. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés là, effectivement, en rachetant beaucoup de choses, sans se justifier, en tout cas expliquant leur démarche. Et ça a créé des incompréhensions. Il y a eu cette histoire du fond banlieue. Et donc, c'est vrai que ça a créé des sensibilités. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une sensibilité sur le terrorisme, sur l'islam.
Alors, justement, est-ce qu'on peut s'y arrêter deux secondes? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, notamment dans la bouche de certains politiques. Front National, pour pas le nommer le Front National, qui dit oui, vu quand on lutte contre le terrorisme, il faut déjà limiter un petit peu les relations avec le Qatar. Alors, le Qatar, par exemple, finance des mosquées en France?
Oui, alors ça c'est nouveau. Traditionnellement, c'était le Maroc et l'Algérie et un peu la Turquie. Mais c'est vrai que depuis 5-6 ans, le Qatar finance des centres islamiques, des mosquées. Alors, faut pas mélanger mosquée et terrorisme.
Non, mais il y a une influence.
Mais c'est vrai qu'on se demande quel est l'agenda du Qatar à venir construire des mosquées en France, mais pas seulement en France, en Europe, au Danemark, en Angleterre, en Espagne. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté, de s'étendre et ça pose question. Et alors c'est légal, hein, parce que les mosquées ne fleurissent pas comme ça, c'est pas souterrain. Hein. Il y a des permis qui sont délivrés par les préfets, les maires, etc. Mais c'est vrai que ça pose question sur pourquoi le Qatar investit sur l'islam en France.
François Toisy.
Le Qatar, c'est plus la mouvance des frères musulmans qu'il soutient. Donc, le Qatar a des relations avec l'Union des organisations islamiques de France, hein, l'ancienne OIF. Mais l'Arabie Saoudite participe aussi au financement de certaines mosquées, mais surtout des travaux de rénovation et quelques mosquées dans le sud de la France. En même temps, la mosquée de Lyon a été en grande partie financée par l'Arabie Saoudite. Mais il n'y a pas vraiment d'ingérence des pays du Golfe aujourd'hui dans la gestion de l'islam de France. Hein. C'est quand même très important. Il y a des investissements qui se font dans des mosquées, mais d'ingérence, c'est plus les pays du Maghreb ou la Turquie qui sont actifs dans l'islam de France.
Des questions par mail. Lucie nous demande qu'en est-il des avantages fiscaux accordés au Qatar? Est-ce qu'ils perdurent? Christian Chesneau, moi j'ai entendu Emmanuel Macron qui veut remettre en cause les exonérations fiscales.
C'est une promesse de campagne. On verra si ça va être accompli ou pas. C'était un accord conclu sous Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a dit on veut de la transparence, on veut pas de favoritisme, on veut les choses à plat. Donc on verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, si effectivement on remet en cause cette convention fiscale avec le Qatar.
Ça c'était Nicolas Sarkozy, François Toisy qui avait...
Oui, oui, c'est
en 2009,
bien sûr. Mais moi, je suis un peu gêné par rapport à tout cela, parce que la France a quand même besoin de ses investisseurs étrangers. On est quand même à un moment où la France doit faire appel à besoin de ses investisseurs pour relancer notre économie. Et tout ce climat sur ce climat sur des investisseurs du Golfe qui nous voudraient du mal, moi, je trouve ça c'est très erroné, parce que d'abord, les investisseurs du Golfe sont en général minoritaires dans les sociétés dans lesquelles ils investissent. Ils sont pas du tout dans des stratégies comme les Chinois. Comme le dire, ils sont dans une logique de rentabilité avant tout, et puis on peut pas se passer de puissance financière pareille. Pour Abu Dhabi, par exemple, je prends l'exemple d'Abu Dhabi, Abu Dhabi Investment Authority, c'est 800 milliards de dollars. Quand même. Le Qatar, c'en est beaucoup moins, c'en est environ 300. Donc la France a besoin de travailler avec ses investisseurs, qui sont investisseurs de qualité, qui participent au développement des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et donc ce serait une erreur aujourd'hui d'avoir un discours très dur sur ces investissements venant des pays du Golfe.
Une toute dernière question au standard de France Inter, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas abordée, on va quand même la poser. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, allô.
Bonsoir, c'est à vous. Alors, si vous pouviez juste nous poser une question assez rapidement, parce qu'il est déjà 19h55.
Oui, ça va être très rapide. J'ai raté quelques instants de l'émission pour vous appeler, mais j'ai pas entendu à un seul moment que vous parliez de la guerre religieuse, enfin faut appeler ça comme ça, interreligieuse entre les chiites et les sunnites, et je pense que c'est une question fondamentale.
C'est une excellente question qu'effectivement on avait zappé tout à l'heure, donc vous avez raison de la poser. François Toisy.
Quand on a parlé de l'Iran, on en parle indirectement, puisque cette rivalité entre sunnites et chiites est très forte. Donc l'Arabie Saoudite qui se veut aujourd'hui leader du monde sunnite, et donc c'est d'où aujourd'hui cette crise avec le Qatar, parce que l'Arabie Saoudite ne veut quelque part que tous les pays sunnites rentrent dans les rangs, et elle veut être le leader de ce monde sunnite. L'expansionnisme iranien dérange beaucoup l'Arabie Saoudite et les pays sunnites. Il y a cette crise au Yémen qui a un coût humanitaire et économique extrêmement élevé pour l'Arabie Saoudite, où là, véritablement, il y a une ingérence, puisque c'est les Houthis qui sont soutenus par l'Iran, qui se rebellent. L'Arabie Saoudite a l'impression de se faire encercler par l'Iran. Il y a une vraie volonté d'expansion des Iraniens dans la région, à Bahreïn notamment. Les chiites considèrent qu'ils sont discriminés dans la plupart des pays sunnites. Donc c'est une crise qui va durer, malheureusement qui va durer. Et c'est très dangereux, parce que c'est l'instabilité aujourd'hui de toute la région qui est menacée, voire même la stabilité mondiale. Je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui. On a beaucoup parlé de ce qui se passe avec le Qatar, mais ça dépasse le Qatar. Je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui à ce que, notamment, Saoudiens et Iraniens trouvent les moyens. Alors, je sais que ça va être très, très dur tant qu'on est dans des obsessions. Trouvent les moyens de se mettre autour d'une table, parce qu'il y a véritablement aujourd'hui un délire obsessionnel de part et d'autre. Je pense que la France, tout comme les États-Unis, les grands amis de l'Arabie Saoudite, les amis de l'Iran, doivent aujourd'hui œuvrer à ce que ces deux grands pays se mettent autour d'une table.
Et que le calme revienne. Christian Chenot, il est 19h57, le mot de la fin pour vous. Il y avait encore plein de questions, notamment sur évidemment la Coupe du Monde 2022, le sort des travailleurs népalais, pakistanais, etc., dont on a déjà parlé.
Sur la Coupe du Monde, les...
Vous avez 20 secondes.
Oui, les responsables que j'ai rencontrés me disent ça continue, on va livrer les stades, etc. Et donc, quoi qu'il arrive, on aura notre Coupe du Monde. On verra, c'est un temps en 2022, mais c'est vrai qu'en 2019, il y a les championnats mondiaux d'athlétisme, et on verra si le Qatar est toujours sous embargo, etc. C'est vrai que cette crise pose quand même une forme de crédibilité du Qatar, la confiance dans l'avenir, etc. Parce que c'est, encore une fois, c'est un petit pays qui est encerclé, et donc pour les investisseurs, pour sa stratégie, c'est quand même une économie basée sur la région, sur le monde. Donc à partir du moment où on la rétrécit, ça pose quand même quelques questions pour l'avenir.
Merci Christian Chenot. Petite question pour vous, Clarence, mais toute petite,
oui.
Sachant qu'on sort un petit peu du Qatar. Là, c'est une par mail, Christophe, qui nous demande des nouvelles du blogueur Raif Badawi, toujours emprisonné.
Écoutez, malheureusement. Moi, je suis en relation justement avec son épouse, Ensaf, qui essaie de faire bouger les choses, parce qu'il faut quand même dire que cet homme est emprisonné depuis 5 ans. On a beaucoup parlé de lui lorsqu'il a été flagellé en janvier 2015. Il y a eu donc tollé général, tout le monde, la presse internationale a été mobilisée. Et puis là, plus rien. Et effectivement, là pour l'instant, écoutez, c'est
plus rien, mais en tous les cas, Amnesty International, et puis ça, son épouse, la Fondation, essaient de faire bouger les choses, et on espère qu'il va sortir.
Et on ne va pas l'oublier. Merci beaucoup, non. Clarence Rodriguez.
Avec plaisir.
François Toisy, merci mille fois d'être venu. Christian Chéneau aussi. Un petit message pour vous dire que, suite à la mort du compositeur Pierre-Henri, France Inter vous proposera après les informations de 20h, la rediffusion d'une radioscopie de 1972 dans laquelle le père de la musique électroacoustique répondait aux questions de Jacques Chancel, bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi ce téléphone sonne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer. J'ai pas le temps de donner la liste.